que nous nous trouvons devant un enfant qui ne veut apprendre que ce qu'il sait. Déjà.
Voilà.
J'en ai sept et j'en ai marre.
Et comment l'enfant Ernesto envisage-t-il d'apprendre ce qu'il ne sait pas encore?
Tiens, mais c'est vrai.
En rachachant.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Une nouvelle méthode.
Un chaland!
Nous sommes maintenant très heureux d'accueillir Jean-Yves Mas, chercheur en sociologie et professeur de sciences économiques et sociales à Montreuil. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour.
Alors Jean-Yves Mas, tu t'intéresses au lien entre la sphère de l'éducation et celle de l'économie, notamment celle de l'entreprise. Pourrais-tu nous brosser une rapide histoire de ces liens et pour comprendre leur évolution et la façon dont ces deux sphères s'articulent aujourd'hui ?
Tout à fait. Donc, en fait, la préoccupation, enfin l'intérêt en tout cas des économistes hein, pour l'éducation est quelque chose de très ancien. On va remonter notamment à Adam Smith, qui est donc le fondateur hein, de l'économie politique au XVIIIe siècle, père de l'école classique en économie, père aussi de ce qu'on appelle le libéralisme économique. Et c'est de façon assez paradoxale. Donc, Smith a écrit un livre majeur qui s'appelle La recherche sur les causes de la richesse des nations. Et pour lui, l'origine de la richesse, en tout cas au début du XVIIIe siècle, donc au début de la révolution industrielle, et pour lui, c'est la division du travail qui est finalement à l'origine de la richesse. Donc, dans un exemple célèbre, hein, il montre que plus on divise le travail, bien plus la productivité augmente. Et donc, si la productivité augmente de façon considérable, ça permet effectivement ensuite donc, une augmentation de la richesse. Donc, pour lui, cette division du travail était vraiment au cœur de la croissance économique. Mais il reconnaît, il a parfaitement conscience que dès le départ, cette division du travail, elle a des effets catastrophiques sur finalement ceux qui sont ceux qui subissent cette division du travail, c'est-à-dire tout simplement ceux qu'on appelle pas encore la classe ouvrière ou le prolétariat, c'est-à-dire les travailleurs de l'industrie qui vont être effectivement très affectés par cette division du travail. Pourquoi ? Parce que la division du travail, finalement, enfin, il le dit dans des termes très très durs, hein, elle abrutit complètement l'individu, l'homme, elle déshumanise l'homme, tout simplement parce que l'homme on est au siècle des Lumières, hein, donc effectivement, l'épanouissement humain, l'homme a de multiples compétences. Or, la division du travail isole complètement, n'utilise hein, qu'une seule finalement compétence, qu'une seule opération humaine. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement ne permet pas l'épanouissement de la personne, en tout cas, certainement pas du travailleur, notamment à cause de du côté extrêmement répétitif et monotone effectivement hein, du travail en usine. Et pour lui, justement, pour pallier ou contrecarrer ces effets déshumanisants de la division du travail, le souverain, ce qu'il appelle le souverain, c'est-à-dire en gros l'État, hein, les pouvoirs publics, doivent effectivement financer, en tout cas prendre en charge le financement de l'éducation pour justement pallier à ces effets dévastateurs de la division du travail. Critique de la division du travail dont on reparlera plus tard et qui va être évidemment reprise par Marx et puis par de nombreux sociologues hein, enfin, tout au long du XXe siècle sur la critique du travail à la chaîne, de l'OST, du taylorisme, etc. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui, dès le départ, hein, dès l'origine finalement de la révolution industrielle, les économistes, en tout cas, s'intéressent à l'éducation. Voilà. Et d'autre part, il y a aussi un autre. Alors là aussi, Smith est quand même vit à l'époque des Lumières et en tant qu'homme des Lumières, il insiste aussi beaucoup sur le rôle de l'éducation comme facteur de stabilité politique. C'est assez étonnant, mais il explique que plus un peuple est instruit et formé, moins il sera finalement victime, en tout cas moins il risque de se rebeller ou moins il sera victime des démagogues qui risquent de le manipuler. Donc moins il est susceptible finalement de renverser l'ordre social. Discours qu'on entend aussi beaucoup actuellement. Je pense que ça fait vraiment écho à ce qui se passe actuellement. Par exemple, bien sûr, sur la crise des Gilets jaunes, enfin, sur le mouvement des Gilets jaunes, où on entend très souvent des éditorialistes hein, économistes économistes nous expliquer qu'en fait, ces gens-là, il faudrait éduquer finalement le peuple, en tout cas transmettre la science économique, instruire le peuple au rudiment de l'économie pour que celui-ci comprenne l'intérêt des réformes actuelles.
Donc un moteur de l'éducation et de son essor à l'époque moderne, c'est en fait l'industrialisation et une volonté de stabilité de l'État et de contention de la population. Quoi.
Ouais. Il y a les deux. Il y a le côté aussi. Alors après, je parle de Smith, j'évoque Smith, mais le cœur de cette relation entre économie et éducation, c'est ce qu'on appelle la théorie du capital humain. C'est une théorie très simple hein, qui date des années 1960, dans lequel donc Gary Becker, hein, qui est à l'origine de cette théorie, cherche à expliquer les inégalités salariales. Et pour lui, si les inégalités salariales sont en fait le résultat des inégalités en investissement de capital humain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'éducation, c'est le niveau de diplôme, c'est la formation qui va ensuite déterminer la productivité des travailleurs et donc le salaire ensuite des travailleurs. Donc, cette théorie du capital humain, elle est extrêmement importante. Elle montre tout simplement que l'éducation est un facteur de croissance économique. Plus et mieux une population est formée, plus elle est productive, plus elle est efficace dans son travail. Donc, alors, paradoxalement, cette théorie qui est d'inspiration tout à fait libérale hein, justifie aussi les politiques éducatives de démocratisation de l'école. C'est-à-dire que si on veut effectivement qu'une population soit formée, eh bien, il faut effectivement que l'État investisse quand même dans l'éducation de façon à ce que les travailleurs soient les plus compétents et les mieux formés possibles et que le patronat trouve une main-d'œuvre finalement adéquate, c'est-à-dire effectivement productive, éduquée et efficace hein, sur le marché du travail.
Celui-ci dont tu parles, c'est cette théorie du capital humain, c'est quelque chose qui s'est fait, donc je suppose, après Adam Smith.
Ah oui, ça date des années 1960. Oui, 1960. Et c'est quelque chose aussi qui va... Ça, c'est important pour comprendre les rapports entre économie et éducation. La théorie du capital humain, finalement, justifie donc les politiques de démocratisation scolaire et explique en partie ce que j'appelle le consensus démopédique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans les années 80, il y a... Dans les années 1980, hein, il y a un relatif consensus. C'est à l'époque où l'objectif des 80% d'une classe d'âge au bac sont fixés hein, par le ministre Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Éducation de l'époque. Et effectivement, cet objectif d'amener 80% d'une classe d'âge au bac est soutenu par le patronat. C'est-à-dire que le patronat, effectivement, conformément à la théorie du capital humain, que il faut effectivement maintenir hein, cet effort de démocratisation de l'école, en tout cas de façon à élever le niveau de formation de la main-d'œuvre. Processus qui date évidemment des années 1960. Hein. Première explosion scolaire, c'est déjà les années 60. Mais dans les années 60, c'est surtout le collège hein, qui est démocratisé, avec bien sûr le collège unique en 1975. Et dans les années 80, c'est le lycée, hein, c'est l'enseignement secondaire second cycle, qui va s'ouvrir et se démocratiser. Donc effectivement, le patronat soutient ces politiques parce que notamment, effectivement, c'est aussi un facteur de lutte contre le chômage, parce que le patronat se retrouve avec toute une main-d'œuvre qui est issue en fait de ce qu'on appelle la main-d'œuvre taylorienne, c'est-à-dire en fait des ouvriers déqualifiés qui travaillaient dans les usines, qui étaient très peu qualifiés, hein, qui avaient pour la plupart quitté l'école de bonne heure. Et en raison de la mondialisation, en raison de l'automatisation, effectivement, il y a toute cette catégorie de population très peu formée, donc des ouvriers très peu qualifiés, qu'il faut reconvertir. Et c'est très difficile, effectivement, de reformer. Hein, il y a les fameux stages, etc. Mais demander à des gens qui ont quitté l'école de bonne heure et qui ont vissé des boulons toute leur vie, si vous voulez, de retourner en stage ou à l'école, de reformer cette main-d'œuvre, c'est compliqué. Alors, l'augmentation du niveau de formation globale de la main-d'œuvre, c'est aussi un facteur qui doit permettre de restructurer ou reconvertir éventuellement la main-d'œuvre en cas de crise économique, de crise industrielle. C'est-à-dire que mieux vous êtes formé, plus facilement vous pouvez changer d'emploi, plus facilement vous vous adaptez éventuellement à d'autres formes d'emploi. Ça aussi, c'est quelque chose d'important.
La question par rapport notamment aux différentes crises pétrolières qui sont intervenues un peu à l'époque dont...
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, et puis c'est aussi un moyen de dire bon ben voilà, de toute façon, il vaut mieux que les jeunes étudiants ou les élèves soient à la fac ou en formation plutôt que sur le marché du travail, puisque avec le chômage de masse qui se développe à cette époque-là, effectivement, bon ben c'est un moyen aussi de retarder en tout cas l'arrivée d'une classe d'âge sur le marché du travail, donc de lutter contre le chômage. Enfin bon, ça résout pas le problème, mais ça retarde un petit peu effectivement le problème. Donc, je pense que pour comprendre un petit peu, hein, pour répondre à votre question, ce qui est important surtout hein, pour le patronat, c'est de trouver une main-d'œuvre qui soit à la fois formée. Enfin, les attentes du patronat, c'est une main-d'œuvre finalement formée et formatée, hein, de façon à ce qu'il puisse être employé, employable en tout cas facilement. Hein, c'est ce qu'attend le patronat. Et avec ce fameux mythe adéquationniste, hein, c'est-à-dire qu'avec cette idée que globalement, la formation devrait s'adapter aux évolutions du marché du travail pratiquement en temps réel. Enfin, j'ai gagé un petit peu, mais ça serait pratiquement ça. Hein, c'est-à-dire éviter les formations non qualifiantes, non professionnalisantes, etc. etc.
on pourrait avoir l'impression, donc je suppose qu'aujourd'hui le patronat a toujours envie d'une main-d'œuvre qui est formée à ses besoins, disons, mais on pourrait avoir l'impression que ces dernières années, tout récemment même, il y a une sorte de retour en arrière sur cette volonté de démocratiser le plus possible l'accès aux études supérieures, ou en tout cas d'amener le plus d'élèves possible le plus loin dans les études.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a un retour actuellement, ce qui date pratiquement, il y a pratiquement une dizaine d'années, le patronat commence, je pense, à prendre conscience. Il y a un élément important aussi, c'est la révolution numérique. C'est-à-dire que on attend aussi, dans les années 90, hein, rappelez-vous, il y avait ce sentiment que la révolution numérique allait globalement pratiquement supprimer l'emploi déqualifié, que forcément elle allait avoir un impact sur la qualification des travailleurs et qu'elle allait réduire considérablement les besoins en main-d'œuvre déqualifiée. Voilà. Ça, c'était un peu le mythe des années 90, et qu'on allait avoir besoin d'une main-d'œuvre de plus en plus, de plus en mieux formée, notamment à l'informatique, aux nouvelles technologies, etc. C'est pas faux, sauf que, on le sait bien, la révolution numérique, l'économie actuelle, on a toujours besoin de gens effectivement peu qualifiés, notamment parfois dans les services, alors que les services auparavant, c'était plutôt justement là où on recrutait des gens plus ou moins qualifiés, etc. On s'aperçoit que y a toujours besoin effectivement de travailleurs peu qualifiés, pas forcément surdiplômés, etc. Dans l'économie. Donc il y a cette prise de conscience que finalement on aurait presque été trop loin dans la démocratisation de l'école, et c'est ce qui explique, à mon sens en tout cas, les politiques éducatives actuelles de Jean-Michel Blanquer, en tout cas du gouvernement. Je rappelle cette phrase d'Emmanuel Macron quand il dit la fac n'est pas la solution pour tout le monde. Ça veut bien dire qu'en fait, on a été trop loin, donc il faut revenir, il faut réinjecter de la sélection, à l'université, pour justement un petit peu réduire, en tout cas, revenir sur cet effort de démocratisation et de croissance, en tout cas, du niveau de formation des salariés. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut, un élément important.
Je suppose que ce n'est pas une exception culturelle française, mais que c'est lié à des tendances qui se retrouvent également dans les autres pays, au moins européens, ou je ne sais pas, occidentaux, nord-américains.
Sans doute. Moi, j'avoue que je me suis un petit peu spécialisé, en tout cas, sur l'étude des documents publiés par le MEDEF, sur ce que j'appelle, le projet éducatif du MEDEF, qui a participé comme ça. Le MEDEF a publié plusieurs documents, plusieurs tribunes, justement, pour contribuer au débat sur l'école, en tout cas.
Peut-être pour relancer, on a lu récemment dans un ouvrage collectif des pédagogies critiques qui a été publié aux éditions Agone, sous la direction de Laurence Decoq et Irène Pereira, que tu constates, en fait, un article dans lequel tu constates l'intérêt croissant des entreprises, notamment de la sphère néolibérale, pour des pédagogies dites alternatives.
Oui, alors là, il y a un paradoxe important, et je pense qu'il faut faire un petit détour par le concept donc de néolibéralisme qu'on retrouve pour comprendre effectivement ce qui se joue dans cet intérêt pour le patronat, pour les pédagogies alternatives. Alors pourquoi c'est paradoxal ?
Peut-être aussi pédagogie alternative.
Bien sûr, on va essayer de redéfinir. Pourquoi c'est paradoxal ? Parce que c'est... Alors, les pédagogies alternatives, c'est quoi ? C'est tout simplement des pédagogies qui critiquent, je dirais, le modèle traditionnel, l'enseignement traditionnel. Alors, le clivage alternatif traditionnel, il est un petit peu complexe. Mais en gros, c'est des pédagogies qui ne sont pas récentes. On peut remonter, bien sûr, à Rousseau, à l'Émile de Rousseau, à Pestalozzi, et puis tout au XXe siècle, à ce qu'on a appelé l'éducation nouvelle. Donc ce sont des gens qui se... comme Freinet, Montessori, bien sûr aussi le fondateur de Summerhill, A.S. Neill. Ce sont des philosophes, des médecins, des éducateurs, des fondateurs aussi des pédagogues, c'est-à-dire en fait des gens qui vont aussi... Des praticiens de la pédagogie qui vont fonder des écoles un peu différentes et qui veulent rompre avec le modèle de l'école traditionnelle, c'est-à-dire en fait un enseignement un petit peu... de transmission, ce qu'on appelle verticale des savoirs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le maître qui détient les savoirs, qui transmet ses savoirs à des élèves qui sont censés se les approprier. Et puis, j'insiste beaucoup là-dessus aussi sur le problème de ces pédagogies, des pédagogies traditionnelles pour les partisans, donc dans des mouvements pédagogiques, c'est surtout que l'élève est passif. Et ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, ce que reproche beaucoup Freinet, même Montessori, etc., enfin, aux pédagogies traditionnelles, c'est la passivité de l'élève. C'est-à-dire que l'élève est là juste pour, finalement, écouter le maître, hein, écouter la parole du maître, s'approprier plus ou moins des savoirs, et puis ensuite les restituer. Mais il n'y a pas d'activité. Hein. C'est-à-dire que l'élève n'est pas actif, c'est juste un simple réceptacle hein, de la parole du maître. Et donc, ces pédagogies sont dénoncées parce qu'elles sont inefficaces, elles seraient inefficaces parce que, justement, elles provoquent l'ennui, le désintérêt, voire le dégoût des savoirs chez les élèves. Et voilà, donc ça, c'est un élément assez important. Alors pourquoi c'est paradoxal ? Parce que ces pédagogies dites alternatives sont plutôt, c'est un peu compliqué, mais étaient plutôt d'inspiration libertaire. Enfin, en tout cas, il y a eu une influence libertaire certaine chez certains. Il y a une tradition hein, anarchiste même, hein, de pédagogie anarchiste. Voilà. Mais tous les pédagogues n'étaient absolument pas des libertaires ou des anarchistes. Hein. Justement, Montessori, enfin, en tout cas, et là-dessus, il y a
pas.
Un...
Ouais, justement, non. Pas, ouais.
Il y a d'ailleurs, enfin, je signale le livre hein, de, alors c'est la revue Notre École qui est une excellente revue, donc qui a publié deux numéros récents justement sur la pédagogie alternative et l'autre sur Montessori et ils opposent justement la pédagogie de Freinet hein, qui est une pédagogie qui vise avant tout les classes populaires et qui était une pédagogie donc émancipatrice, libératrice, démocratique. Aux pédagogies Montessori, justement, il y a un conflit entre Freinet et Montessori, de toute façon, dès l'origine. Hein, Freinet critique Montessori de façon assez nette. Et donc, voilà, je vous renvoie à cette revue, en tout cas, pour ce débat. Donc, il y a aussi une influence spiritualiste, je dirais, dans les pédagogies alternatives. J'étais un petit peu étonné, mais en lisant certains textes et la biographie de certains auteurs, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup aussi de militants chrétiens, protestants notamment. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait aussi donc une grande influence religieuse. Alors, elle est pas, c'est pas ouvertement religieux, mais je dirais spirituel.
Tu fais référence à Steiner ?
Oui, Steiner, mais même chez Piaget ou chez Ferrière, je crois effectivement, il y a cette dimension où on est critique par rapport à l'école traditionnelle, mais on se réfère, c'est l'épanouissement hein, de l'enfant qui est avant tout au cœur justement de ces pédagogies, et ces pédagogues reprochent à l'école traditionnelle justement de ne pas favoriser l'épanouissement de la personnalité, de la créativité, etc. de l'enfant. Donc ça, on retrouve ça dans cette mouvance pédagogique. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce sont plutôt des pédagogies critiques de l'école traditionnelle, l'école républicaine traditionnelle, donc plutôt, si vous voulez, en général, plutôt à gauche. Hein, en tout cas, il y a une affinité, relativement forte, notamment dans les années 1960-1970. Il est clair qu'effectivement, bon, avec l'influence effectivement de mai 68, dans le sillage de 68, Libre enfant de Sommerhill, par exemple, hein, est un véritable best-seller, que tous les lycéens à l'époque, peut-être pas tous, mais enfin beaucoup de lycéens en tout cas lisent. Et donc ça fait partie finalement de cette critique hein, de l'école traditionnelle et d'une école conservatrice aussi. Hein, on accuse l'école d'être conservatrice, de finalement être du côté de l'ordre social, de reproduire hein, les inégalités et la domination sociale et de la bourgeoisie. Donc ces pédagogies en tout cas, il y a un ancrage plutôt à gauche hein, au départ. Et justement, le paradoxe, c'est comment se fait-il que tout d'un coup, effectivement, le patronat et puis aussi les néolibéraux, si vous voulez, l'idéologie néolibérale, se mettent effectivement à s'intéresser un petit peu à ces pédagogies depuis une dizaine d'années.
On va essayer d'y venir.
Je pense qu'on va juste essayer de revenir un tout petit peu sur ce qu'on peut appeler le néolibéralisme. Hein, c'est aussi un concept clé ici, là, dans le... Pour moi, le néolibéralisme, hein, je reprends la définition qu'on trouve chez Laval et Dardot, hein, chez Christian Laval et Dardot dans La Nouvelle Raison du Monde, qui eux-mêmes d'ailleurs analysent notamment, effectivement, enfin en tout cas, analysent ce concept de néolibéralisme qui est en fait, enfin, ils reprennent en tout cas les textes de Foucault hein, sur le néolibéralisme des années 70. Alors, il y a trois éléments importants, hein, si on veut comprendre justement cette émergence, ce développement de l'idéologie néolibérale. Il faut la mettre en parallèle par rapport à l'idéologie libérale traditionnelle, je veux dire. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Ce qui est important dans le libéralisme traditionnel, donc à la limite celui d'Adam Smith, hein, dont je parlais tout à l'heure, c'est l'échange. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est au cœur du libéralisme, c'est l'échange. L'échange, c'est-à-dire l'échange de marchandises, le marché. Hein. Donc les individus, finalement, sont tous des homo economicus hein, qui rentrent en contact les uns avec les autres, notamment pour échanger et globalement satisfaire leurs besoins et leur, ce qu'on appelle leur utilité, c'est-à-dire en fait leur degré de satisfaction. Dans le néolibéralisme, c'est la concurrence qui est finalement le concept clé. Hein, c'est-à-dire, c'est la concurrence, c'est-à-dire il faut favoriser la concurrence sous toutes ses formes parce que c'est un critère qui, d'efficacité. C'est-à-dire que si les individus ne sont pas en concurrence avec les autres, ils ne sont pas, entre guillemets, efficaces. Hein, je crois que ça, c'est vraiment la concurrence, c'est le marché... Enfin, enfin, la concurrence à avoir, bien sûr, avec le marché. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des concepts qui sont très, très proches. Mais voilà, donc dans le néolibéralisme tel que le décrit Foucault et puis ensuite Laval et Dardot, c'est effectivement la concurrence qui est au cœur. Hein, c'est le concept clé. Alors, la différence aussi avec le libéralisme, c'est que cette concurrence, elle vient de l'économie, mais elle doit se diffuser, je dirais, à l'ensemble des comportements sociaux. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un concept qui touche les entreprises, c'est quelque chose qui doit finalement toucher l'individu même, hein, lui-même. Et donc, moi, j'ai un concept que j'utilise. C'est en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est la fabrication et la formation de l'homme compétitif. C'est-à-dire que vous devez être compétitif dans tout ce que vous faites. Hein, c'est-à-dire que vous devez vous considérer comme perpétuellement en situation de concurrence, évidemment dans votre travail, dans votre activité marchande, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Hein, vous êtes en permanence en concurrence les uns avec les autres. Troisième élément très important aussi, donc, de différence entre le néolibéralisme et le libéralisme classique, c'est le rôle de l'État. Dans le libéralisme classique, on se méfie de l'État. C'est-à-dire que l'État, c'est vraiment... On n'est pas contre toute intervention de l'État. Ça, c'est l'ultra-libéralisme qui, parfois, refuse toute formation de l'État. Dans le libéralisme classique, toute intervention de l'État. Dans le libéralisme classique, l'État joue un rôle. Il n'y a pas à dire. Mais il doit être limité. C'est-à-dire que l'État ne doit pas interférer ou interférer le moins possible entre les relations humaines et notamment les relations économiques. Pour l'idéologie néolibérale, l'État a un rôle actif à jouer. C'est-à-dire que c'est l'État, au contraire, qui doit favoriser finalement la diffusion de ces normes comportementales, hein, d'accord, concurrentielles, qui doit favoriser finalement la constitution de l'homme compétitif. Et alors on voit tout de suite évidemment le rapport avec l'école, puisque qui mieux que l'école, hein, peut finalement influencer sur les comportements, sur les mentalités, sur l'éthos, enfin hein, l'éthique en tout cas, l'éthos des individus. Donc évidemment, les néolibéraux s'intéressent de près à l'école, et c'est pour ça aussi que le MEDEF s'intéresse effectivement à l'école. Alors, pour comprendre, pour comprendre cet intérêt du MEDEF et du patronat sur les pédagogies alternatives, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière et pour rappeler ce qui s'est passé dans les années 80-90. Se passe dans les entreprises ce qu'on a appelé parfois la révolution managériale. Révolution managériale, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un concept qui a été... Je me réfère aux analyses de Luc Boltanski, d'Eve Kiapolos, sur le nouvel esprit du capitalisme. C'est un ouvrage majeur qui sort à la fin des années 90, où Boltanski, donc, reprend, si vous voulez, tout un petit peu cet historique de la pensée managériale. Et il montre comment le capitalisme, comment finalement les entreprises sont fragilisées et contestées de façon frontale dans les années 60 et 70. Il y a une remise en cause il y a des grèves, il y a des mouvements, mais il y a un refus du travail. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le travail en tant que tel, finalement, qui est rejeté par, par les syndicats, mais enfin, par plein de personnes. Pourquoi est-ce que le travail est rejeté ? Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle beaucoup de sociologues et de philosophes et de militants critiquent ce qu'on appelle la division du travail, justement. Hein, critiquent l'aliénation au travail. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le fameux métro boulot-dodo. Hein, c'est-à-dire que l'individu, finalement, n'est qu'un simple travailleur qui doit aller à l'entreprise et qui est dans l'entreprise, il est exploité et il est aliéné. Aliéné, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a aussi un concept intéressant sur l'aliénation. L'aliénation, enfin le film, la figure de l'aliénation, c'est Les Temps modernes de Charlot. Hein, Charlie Chaplin qui, effectivement, quand il travaille à la chaîne, pense à autre chose. Hein, il pense à autre chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans ce qu'il fait. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très fort dans le film de Chaplin. C'est tout simplement cette idée que la division du travail nie, encore une fois, hein, l'humanité de l'homme, enfin nie en tout cas son... va à l'encontre de l'épanouissement de l'homme. Ce refus du travail, cette résistance au travail, provoque aussi un ralentissement des gains de productivité. C'est-à-dire que, comme les travailleurs sont moins motivés, refusent le travail, on s'aperçoit qu'il y a des comportements dans les usines, si vous voulez, dans les entreprises, de refus du travail qui vont jusqu'au sabotage, jusqu'à la casse, jusqu'à ce qu'on appelle le freinage. Hein, il y a tout un tas de techniques mises en place, notamment dans le travail à la chaîne, pour freiner, justement, hein, pour freiner le travail, c'est-à-dire, en fait, en gros, saboter de l'intérieur, un peu, si on veut, le processus productif. productif, avec des arrêts de travail, etc. Donc le patronat va essayer de s'emparer de cette critique pour finalement se l'approprier et transformer l'image de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, ce n'est plus un lieu d'aliénation, ce n'est plus un lieu d'exploitation. Ça doit être au contraire, et alors c'est fantastique, parce qu'il y a un lieu d'émancipation. C'est-à-dire que dans les documents que publie le MEDEF, il y a écrit noir sur blanc, hein, l'entreprise doit être aussi un lieu d'émancipation. Un lieu d'émancipation, c'est-à-dire qu'en fait, l'individu doit se réaliser dans l'entreprise. Et c'est à l'époque donc tout un mouvement dans les entreprises où on parle plus de management, on parle de management participatif, où on demande, on réunit les ouvriers pour qu'ils discutent des conditions de travail, comment améliorer le processus de travail, etc. Donc c'est quelque chose qui touche pratiquement toutes les entreprises, en tout cas enfin le monde du travail. Donc on essaie de réconcilier, je dirais, les salariés avec leur entreprise. C'est aussi l'époque où, c'est aussi un peu les années fric, les années tapis, hein, où justement l'entreprise redevient un petit peu, il y a un retour en grâce du modèle ou de l'image de l'entreprise, hein, dans ces années-là. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui touche, donc on cherche plus justement, on n'a plus besoin de salariés soumis, hein, ou obéissants, on a besoin aussi de gens dans les entreprises qui vont d'eux-mêmes, spontanément finalement, proposer des solutions, proposer des innovations, s'impliquer dans leur travail. Hein, s'impliquer, on cherche des gens, justement, on cherche à lutter contre l'aliénation au travail qui est contre-productive. On cherche au contraire à réconcilier, finalement, le travailleur avec l'entreprise. Hein, là, il y a un enjeu important. Deuxième enjeu, c'est celui sur la compétitivité. C'est-à-dire que de plus en plus, alors la compétitivité jusqu'aux années 60-70, elle passe par ce qu'en économie on appelle les économies d'échelle. C'est-à-dire, en fait, globalement, plus vous produisez, moins ça coûte cher à l'unité. Donc on a besoin là aussi de produire, hein, ce qu'on appelle la production de masse, ce qu'on appelle le fordisme en gros, hein, c'est-à-dire en fait des entreprises qui produisent beaucoup, hein, toujours pratiquement du même modèle, et qui du coup, comme on produit beaucoup, ça fait baisser les coûts de production, la compétitivité donc passe par les coûts de production. Or, à ce moment-là, on commence à comprendre qu'effectivement, ce modèle-là, encore une fois, a atteint des limites et on doit favoriser, au contraire, la compétitivité hors coût. C'est-à-dire, en fait, c'est la différenciation des produits qui joue. C'est-à-dire qu'on veut, on veut une voiture, on veut une voiture, une couleur particulière, avec des options particulières, etc. Hein, ça, c'est... Ou alors des baskets, mais on veut des baskets d'une certaine marque, ou des baskets, non seulement de la marque, mais d'un certain type, etc. Donc, ça s'appelle la différenciation des produits. Et pour ça, on a besoin aussi, justement, de salariés créatif, enfin de salariés. En tout cas, on a besoin d'innover et de créer de nouveaux modèles. Hein, le concept de créativité devient là aussi central. C'est-à-dire que la créativité est un facteur de compétitivité extrêmement important pour les entreprises. Et justement, ce discours-là fait écho, hein, aux critiques traditionnelles de l'école, aux critiques donc pédagogiques, en inspiration pédagogique, sur l'école traditionnelle qui, justement, elle aussi, accusait finalement l'école de dégoûter, hein, les élèves du savoir, de la connaissance. Je vois juste sur le concept d'aliénation, il y a quelque chose, en préparant l'émission, finalement, Chaplin, les temps modernes, et l'aliénation finalement au travail, l'aliénation par contre à l'école, c'est-à-dire le pendant finalement de cette aliénation dans le travail à l'école, c'est le cancre de Prévert. Le cancre de Prévert qui justement, lui, il est là, mais il n'est pas là. Hein, il pense à autre chose, il regarde par la fenêtre, il écoute le maître d'une oreille à peine. Et c'est le même, vous voyez ce que je veux dire, c'est la même chose, c'est-à-dire effectivement des individus qui ne sont pas à ce qu'ils font. Hein, qui sont là, qui sont présents, mais ils sont aliénés dans le sens où ils pensent à autre chose. Hein, on a tous été, je pense, écoliers, on a tous été à l'école, et c'est vrai que se concentrer, on n'a pas toujours été forcément passionnés, ou en tout cas, c'est difficile de se concentrer complètement sur ce que dit, hein, le prof, le rôle du prof étant évidemment d'essayer de lutter contre cette démotivation ou ce désintérêt. Voilà, donc en fait, c'est quelque chose, là, c'est une image qui m'avait un petit peu choqué. Et alors, ce qui est très intéressant, justement, puisque je suis avec des professeurs d'art et des artistes, c'est que, justement, l'artiste, c'est le contre-modèle absolu, en théorie.
En théorie.
Oui, mais en termes d'image.
Il y a eu des études qui ont fait le contraire.
Non, mais l'artiste...
En termes d'image, oui.
Alors, à la limite, c'est un débat intéressant, mais l'artiste, théoriquement, c'est celui, justement, qui s'épanouit dans son travail, qui se réalise dans son travail. D'accord ? Quand il crée l'artiste, il est tout à ce qu'il fait. En théorie, je ne sais pas. Moi, j'ai fait un peu de musique. Bon, je me souviens que quand je fais des gammes, par exemple, on peut faire aussi des gammes de façon très machinale, très en pensant à autre chose. On peut jouer un morceau de musique, parfois, de façon un peu mécanique. Donc, ce n'est pas si facile. Mais dans l'image de l'artiste, hein, c'est celui qui réconcilie, j'ai envie de dire, à la fois la créativité et l'épanouissement. Il y a cette image très forte.
Est-ce que c'est pour cette raison que chez, par exemple, Boldanski et Capello, ils parlent de critique artiste pour parler de la critique de l'aliénation au travail?
Oui, la critique, à ce qu'ils appellent eux critique artiste, c'est justement, alors eux ils distinguent deux types de critiques, que j'ai un petit peu évoqué dans les critiques du capitalisme qui datent des années 60, une critique on va dire sociale traditionnelle, hein, une critique donc sur comme quoi l'entreprise, enfin c'est un lieu d'exploitation, donc il faut lutter pour des hausses de salaire, pour lutter contre les inégalités de salaire, et une critique artiste justement qui reprend ce qu'on disait tout à l'heure, qui montre que dans l'entreprise, non seulement l'individu est, enfin le travailleur est exploité, mais il est aussi aliéné. Et effectivement, c'est cette critique-là qui est aussi assez importante dans les années 60-70. Je vais faire un petit parallèle rapide. C'est un peu un clivage qu'on trouve, par exemple, au niveau syndical entre la CGT et la CFDT, par exemple. Hein, la CFDT qui insiste beaucoup, souvent, sur les conditions de travail, sur la réduction du temps de travail, par exemple. Et puis la CGT qui, elle, est beaucoup plus dans des revendications de type un peu matérialiste. Hein, voilà, c'est avant tout... Voilà. On trouve un peu ce clivage syndical, voire avec ce qu'on appelait la deuxième gauche aussi, hein, en France, à une certaine époque... sur la notion d'autonomie, d'autogestion dans le travail. Voilà pourquoi aussi il y avait un clivage important au niveau syndical, par exemple, sur les questions sur ces questions de participation des travailleurs ou de démocratisation de la vie à l'intérieur de l'entreprise. La CFDT est en général favorable, et puis la CGT plutôt hostile, sentant effectivement qu'il y a un piège derrière tout ça. Quoi.
Mais dans ce que tu viens de nous décrire du mode de fonctionnement du néolibéralisme dans l'entreprise, et notamment tout ce qui est de l'ordre du participatif, est-ce que ça ne touche pas principalement à la sphère du tertiaire, et qu'en est-il de tous les emplois manuels? Parce que
la révolution management, ce qu'on appelait les nouvelles formes, les NFOT, les nouvelles formes d'organisation du travail, ont touché l'industrie. Enfin, à une époque, on parlait aussi beaucoup par exemple, de Toyota et de Volvo, hein, qui étaient justement des entreprises automobiles qui rompaient avec cette logique un peu fordiste. Voilà, on opposait, pendant très longtemps, on a opposé le modèle Toyota, ce qu'on a appelé le toyotisme. Justement, en tout cas, le management chez Toyota, donc un management basé justement sur la recherche de la qualité, sur l'implication des travailleurs, sur peut-être un plus grand respect des travailleurs. Moi, je ne suis pas sociologue du travail, donc je ne peux pas, enfin, c'est pas, je parle juste de ce qu'on a entendu à l'époque. Et on opposait justement ce modèle japonais, en tout cas ce modèle toyotiste, à l'organisation traditionnelle fordiste du travail dans les entreprises, bon, en France notamment. Et voilà, ça on l'a entendu.
Est-ce que c'est une participation financière en l'occurrence ?
Non, on expliquait le succès de Toyota par son modèle justement sur la qualité, sur l'implication des travailleurs. Bon, par exemple, sur ce qui est extrêmement important dans l'industrie à une époque, c'est la chasse aux défauts, par exemple, parce que les défauts, ça coûte très cher. Hein, quand vous avez une voiture qui sort de l'usine et puis effectivement, je pense qu'il manque une roue, c'est un peu embêtant. Voilà, donc le taylorisme, l'organisation traditionnelle du travail pouvait provoquer des formes de résistance qui se traduisait par une sorte de passivité. Et justement, bon bah si en gros, l'ouvrier taylorien qui travaille à la chaîne, bon bah s'il voit un défaut, il dit « c'est pas mon problème, de toute façon, ici, je suis exploité, je n'interviens pas sur le défaut ». Alors que justement, donc la chasse au ce qu'on appelait le zéro défaut, c'est chercher à impliquer l'ouvrier tout de suite qui va signaler le défaut ou intervenir pour justement réparer. En tout cas,
pour autant, les chaînes n'ont pas disparu.
Non, elles ont surtout aussi beaucoup été automatisées.
C'est vrai.
Oui, Michael, du coup, ça redonne une espèce de sens au travail, avec des gros guillemets, on va dire, si l'employé se met à davantage considérer que la qualité du travail est importante.
Et donc, voilà pourquoi aussi il y a cette, si vous voulez, cette congruence entre, globalement, c'est-à-dire en fait, cette proximité, en tout cas, entre ce discours managérial qui critique, hein, enfin, en tout cas, qui s'empare de la critique qui vient de la gauche, hein, qui vient des syndicats et de la gauche, cette critique de la division du travail qui va s'en emparer pour justement essayer de réconcilier les travailleurs et l'entreprise, et aussi pour jouer sur favoriser la compétitivité des entreprises, et la critique pédagogique de l'école, hein, on l'a dit tout à l'heure, qui justement, elle aussi, dénonce l'aliénation scolaire, enfin en tout cas l'ennui à l'école, la monotonie, le côté aussi un peu absurde, etc., de l'enseignement traditionnel.
Mais comment réagissent les pédagogues ou les enseignants, tout simplement, des pédagogies alternatives par rapport à ça? Parce que vous l'avez expliqué, à la base, ça ne vient pas de là. Et par exemple, alors, il y a un vocabulaire partagé, autonomie, vous l'avez employé,
oui,
collaboration, coopération, mais est-ce que c'est participation?
Alors,
est-ce que ça veut dire la même chose dans les deux cas aujourd'hui, pédagogie et monde du travail?
Très difficile, parce qu'effectivement, derrière ces termes, bon, qu'est-ce qu'on y met? Enfin, il y a des réalités qui peuvent être très diverses. Moi, j'ai du mal à vous répondre parce que j'ai toujours été très critique sur justement cette... Je critiquais cette instrumentalisation, si vous voulez, du discours pédagogique par le néolibéralisme. Et du coup, je me suis trouvé parfois un petit peu en porte-à-faux par rapport à des gens qui me disaient « Ah oui, mais tu défends l'existant, tu défends le status quo, tu es conservateur. » tu es conservateur, parce que si tu critiques les pédagogues, tu es forcément dans l'autre camp, le camp des républicains, des conservateurs, des restaurateurs, comme on dit parfois. C'est dans l'école, on oppose souvent les réformateurs modernistes, donc ce qu'on appelle ce que j'ai appelé donc les pédagogues, et puis les autres, les conservateurs, les républicains, etc. Donc j'ai parfois été un peu accusé justement de conservatisme. Et alors l'intérêt, le gros intérêt, je pense, du travail de Laurence de Kock et d'Irène Pereira, c'est d'avoir justement, et aussi de la revue Notre École, c'est d'avoir un peu justement clarifié un peu les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont de clarifier. Alors c'est le travail d'Irène, ça, c'est de montrer justement qu'elle distingue les pédagogies, dans les pédagogies alternatives. Elle distingue surtout ce qu'elle appelle les pédagogies critiques, qui sont des pédagogies, c'est-à-dire de transformation sociale, c'est-à-dire des pédagogies qui visent à la transformation de la société, alors que dans les pédagogies alternatives, on peut se poser la question, effectivement, enfin, en tout cas, cet objectif n'est pas central dans certaines écoles ou certaines.
N'est pas moteur.
Ouais. Voilà, n'est pas moteur. Oui.
Ce qui fait qu'il n'y a eu aucune résistance des pédagogies alternatives à cette récupération.
C'est difficile à dire.
Est-ce qu'il y a eu des mouvements de...
Non, pas vraiment, parce que c'est aussi dans les pédagogies alternatives, c'est aussi pareil. Il y a des militants pédagogiques qui sont à l'intérieur de l'école, de l'école publique, et puis il y a les gens qui sont un petit peu en marge. Moi, je me suis souvent heurté, en tout cas, à des discours, un petit peu qu'on me rejetait du côté des conservateurs. Et là, j'apprécie beaucoup le travail d'Irène, en tout cas, qui justement, elle, fait la distinction entre les pédagogies alternatives et les pédagogies critiques. Ça, c'est assez intéressant.
Dans le livre qu'elles ont co-dirigé, qu'on a déjà cité, dans lequel vous avez écrit, dans votre texte, justement, vous écrivez, alors je vais vous citer, « La construction d'un véritable projet éducatif passe par l'articulation des valeurs, des savoirs et des pratiques. Autrement dit, tout projet éducatif émancipateur doit s'accompagner d'un projet éthique, épistémologique et pédagogique, ou tout simplement politique. » Et je crois que ça rejoint d'une certaine manière des choses que défendent Irène Pereira ou Laurence de Kock sur le fait qu'une pédagogie critique et pas simplement alternative articule un projet éducatif avec un projet politique, effectivement, dans le sens large du terme. Mais dans votre expérience d'enseignant, peut-être, tout simplement, comment est-ce qu'il est possible, selon vous, d'articuler cette articulation, ou bien qu'est-ce qui fait obstacle aujourd'hui, si justement c'est pas possible de...
Je vais vous répondre, mais je vais revenir sur un tout petit point qu'on n'a pas évoqué. C'est le concept, on avait parlé un petit peu hors émission, d'employabilité. Mm-hmm. J'avais dit aussi que je pense que l'intérêt du MEDEF et du patronat pour les pédagogies alternatives renvoie à l'articulation qu'on avait exposée entre actif et passif. Mm-hmm. J'avais dit effectivement que les pédagogues accusent souvent effectivement l'école d'être traditionnelle, de rendre l'élève passif. Et dans le projet finalement néolibéral, dans la société néolibérale, justement, il y a ce concept clé qui est celui d'employabilité et sur lequel le MEDEF, insiste beaucoup. C'est quoi l'employabilité ? C'est tout simplement cette capacité qu'a un individu d'être employable, c'est-à-dire de trouver un emploi. Donc il y a cet objectif, en tout cas dans les textes patronaux, de favoriser aussi un état d'esprit, un ethos, chez les élèves. Comme quoi, finalement, eh bien, si vous arrive quelque chose, c'est-à-dire si vous êtes au chômage, si votre entreprise fait faillite, si jamais... eh bien, vous devez ne pas être passif, mais être actif, c'est-à-dire réagir. Je dis parfois, dans la société néolibérale, le travailleur doit être à la fois actif, créatif et réactif. Ça veut dire que, justement, vous devez de vous-même vous prendre en charge. Et il y a un écho très fort avec ce que dit parfois Emmanuel Macron quand il dit si vous voulez un boulot, il suffit de traverser la rue. Donc, je pense qu'aussi, il y a aussi ce concept actif-passif qui est très intéressant dans le projet du MEDEF. Le MEDEF aussi souvent on retrouve ce concept de favoriser l'esprit d'entreprise. Ça se retrouve dans tous les documents depuis pas mal de temps. L'esprit d'entreprise, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que d'une part, l'esprit d'entreprise, c'est tout simplement légitimer en gros l'économie de marché et l'entreprise. Alors, j'en parle d'autant plus, je peux d'autant mieux en parler que je suis professeur de sciences économiques et sociales, et les sciences économiques et sociales sont accusées nominalement, l'enseignement des SES est accusé par le MEDEF depuis une vingtaine d'années. Il y a des attaques récurrentes comme quoi les profs de SES donneraient une mauvaise image de l'économie de marché, seraient seraient partiaux dans leur façon de présenter les choses et donneraient une mauvaise image du marché, de l'économie de marché, du capitalisme, etc. Donc ça, c'est un procès récurrent que nous fait le MEDEF à chaque fois.
C'est un procès aussi qui touche plein d'autres.
Oui, mais nous on le prend. Dans la c'est vrai, quoi. C'est vrai. Mais enfin
la question de la neutralité.
Oui, est... oui, c'est, non, c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'on là qui est vraiment récurrent et des campagnes qui frisent, enfin vraiment la mauvaise foi, enfin la plus bon des articles de journaux qui sont, enfin il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'imprécisions sur ce qu'on fait réellement, une méconnaissance. Donc, favoriser l'économie d'entreprise, c'est favoriser l'image de l'économie de marché et de l'entreprise. C'est aussi, bon, peut-être favoriser la création d'entreprise, c'est-à-dire, effectivement, le MEDEF voudrait que tous les élèves ne rêvent pas d'être fonctionnaires, mais rêvent d'être créateurs d'entreprise, avec le fameux mythe de la start-up aussi. Hein, c'est-à-dire que, voilà, on veut des futurs Steve Jobs et des futurs Bill Gates ou Jeff Bezos, finalement. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et puis, troisième plan, je vous dis, c'est l'entreprise au sens même de favoriser l'auto-entrepreneuriat et d'être ce que Foucault appelait un entrepreneur de soi-même, c'est-à-dire se considérer comme toujours en situation, de ce que j'ai dit tout à l'heure, de compétition, de compétitivité. Alors, sur la question des formes de résistance, là, c'est un petit piège. On en a parlé en antenne aussi, c'est un petit piège parce que, je vais être franc, moi, je suis enseignant en lycée, donc dans l'enseignement public. Et c'est pas faux que c'est assez cadré. Enfin, je veux dire, notre enseignement est assez. Il y a un cadre, il y a un programme, il y a des horaires. Donc, on peut innover, bien sûr. Je suis pas du tout. Je dis pas qu'on peut rien faire, au contraire. Mais ça reste quand même. Je pense qu'une véritable pédagogie. Enfin, en tout cas, c'est difficile, en tout cas, de mener des pédagogies réellement, même critiques, ouvertement critiques. Encore que. Dans ce cadre. Alors, pour ma part, c'est vrai que, pour pas mal de mes collègues, face à ces offensives néolibérales ou patronales qui jouent aussi sur les programmes, puisqu'on a eu des nouveaux programmes de SES actuellement, c'est des programmes, par exemple, je vais vous donner un exemple pour vous montrer. Alors, ils sont pas. Enfin, c'est. Ce qu'on vous lisait comme ça, ils ne sont pas forcément hyper idéologiques, hyper orientés, puisqu'on peut évoquer quand même. Encore la lutte des classes, par exemple.
Vous avez le droit de parler de Marx.
Oui, bien sûr. Mais justement, de façon un petit peu ambiguë quand même, pour montrer qu'il s'est un peu trompé quand même. On peut encore en parler. Mais par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est par contre sur la question climatique. C'est-à-dire qu'on évoque, bien sûr, la question climatique. Sauf qu'à aucun moment, dans nos programmes, en tout cas, on nous demande d'évoquer tout simplement le fait que le système productif actuel... Et conduit l'humanité à sa perte. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de remise en cause. Donc tout ce qui est du domaine de la décroissance, tout ce qui amène de la remise en cause du consumérisme, tout ça, on ne l'évoque pas. Donc la seule solution au problème climatique, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'on nous dit à un moment, il faut montrer qu'il y aura peut-être des solutions techniques. Donc en fait, ce n'est pas la croissance. Ce qui est quand même actuellement relativement consensuel, que le modèle économique actuel est quand même responsable, en tout cas, du réchauffement climatique, eh bien, il faut continuer. Tout d'un coup, plus il y aura de croissance, plus on va financer peut-être des solutions alternatives et on va trouver la solution au réchauffement climatique. Mais à aucun moment, il y a de remise en cause du système lui-même.
C'est au contraire un marché, alors, presque.
Hein ?
C'est presque au contraire un marché.
Tout à fait.
À prendre.
Tout à fait. Le mot capitalisme, par exemple, l'économie de marché ou même le capitalisme ne sont pas des termes qu'on doit définir. Par exemple, à aucun moment, on nous demande d'expliquer ce qu'est le capitalisme ou ce qu'est l'économie de marché. Donc, on doit accepter le système tel quel. Évidemment, on peut très bien, dans nos pratiques, encore pour l'instant, déconstruire tout ça. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'influencer les élèves, de leur imposer un modèle, etc. Il s'agit juste d'un enseignement pluraliste. Et ça, effectivement, le MEDEF n'en veut pas. D'accord. Voilà, c'était mon petit quart d'heure pour les programmes de SES et les collègues de SES.
On se demandait aussi, peut-être que c'est vrai que c'est peut-être compliqué de défier une résistance, mais on se demandait avec Jérôme quelles avaient été les principales mesures qui avaient été introduites aujourd'hui par le courant néolibéral au sein des établissements scolaires. Est-ce qu'il y en avait déjà
Est-ce
qu'elles étaient déjà en
pour
place
Pour moi, clairement, la réforme du lycée et l'introduction de Parcoursup, ce sont des mesures d'inspiration néolibérale, puisqu'en réalité, elles visent à renforcer la sélection. Enfin, c'est l'introduction de la sélection à l'université. On revient... Alors, quand je dis ça, je me fais attaquer aussi encore comme conservateur. Je dis, le bac, jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, le bac, on peut critiquer le fait que, oui, bien sûr, l'accès au bac est inégal, bien sûr, les inégalités scolaires, je ne les nie pas absolument, mais le bac était un diplôme qui vous donnait accès à l'université. Donc c'était un droit. Vous aviez le bac, vous aviez le droit à l'université. Ce n'est plus le cas. En tout cas, c'est beaucoup plus... Enfin, Je ne dis pas que, évidemment, enfin, il y a encore des gens qui vont à la, des bacheliers qui vont à la fac, mais ça n'est plus automatique. Vous êtes sélectionné sur vos résultats, sur la façon dont vous avez eu le bac, etc. Donc, c'est déjà une façon de favoriser ce que j'appelle l'homme compétitif. On voit aussi que dans ces réformes, on essaie délibérément, en tout cas, d'éloigner, en tout cas, les bacheliers technologiques et professionnels de l'université, sous prétexte. Ce qui n'est pas faux non plus, je ne dis pas, il ne faut pas nier une certaine réalité, mais que ces bacheliers ne réussissent pas complètement à la fac, eh bien, tout simplement, on leur interdit. Plutôt que d'essayer de trouver des moyens pour favoriser éventuellement à ceux qui voudraient éventuellement poursuivre leurs études à la fac, de favoriser leurs études, on cherche à leur bloquer l'accès à l'université. Hein, ça, c'est clair. Et c'est en ça que même le fait, par exemple, le fameux choix des spécialités en première, hein, vous savez que les séries classiques L, E, S et L ont été supprimées, et à la place, donc, les élèves, qui sont d'ailleurs très, très désarmés, qui sont assez en colère quand on leur demande de choisir, parce qu'enfin, ils ne comprennent pas tellement, finalement. Ils se disent, mais si je fais un choix qui risque de me fermer des portes plus tard, c'est quand même compliqué. Donc, voilà, là aussi, il y a une forme de, si vous voulez, de néolibéralisme qui s'instaure. C'est qu'on dit à l'élève à 15 ans, bon, bah, faut que tu choisisses des spécialités qui vont ensuite. Donc, il faut déjà que tu penses à ce que tu vas faire après le bac, hein, pour justement essayer d'être le plus d'être sélectionné après, grâce au dispositif Parcoursup. Je rappelle juste aussi d'ailleurs, sur l'absurdité de cette réforme qui, soi-disant, est faite pour accentuer la formation des élèves. En réalité, se traduit par une détérioration des conditions de travail des élèves et des profs, hein, puisqu'on supprime les dédoublements, les heures dédoublées, les demi-groupes, par exemple. Et on demande à des élèves, alors ça, c'est complètement absurde, donc il y a 3 spécialités en première, ils doivent en abandonner une en terminale. Pourquoi ? On n'en sait rien. C'est tout simplement pour approfondir, mais approfondir, si les élèves aiment leurs 3 disciplines, ils sont obligés d'en abandonner une. C'est un choix cornélien. Je ne vois pas pourquoi on leur impose. Et à quoi ça sert, en plus, d'étudier une discipline pendant un an ? On ne comprend pas l'enjeu.
Et alors, en plein milieu d'un cycle, en plus.
Oui, oui. Mmh. Et cerise sur le gâteau, on a appris que les épreuves de spécialité donc, se passent au mois de mars en terminale. Elles vont être passées au mois de mars. On a quand même des programmes scolaires qu'on est quand même censé finir. Eh bien, je ne sais pas comment on va faire. Il y a sans doute des parties qui ne seront pas, qu'on va nous demander de ne pas traiter. Enfin voilà, c'est... Et alors, l'objectif, j'en ris, mais c'est pas très drôle, c'était de simplifier le bac quand même. Hein. Enfin, je veux dire, lors de mission que Macron a donné à Blanquer, c'était de simplifier le bac. Et alors, ça devient une véritable usine à gaz avec une multiplication des épreuves un peu partout. Enfin voilà, c'est très très complexe.
Alors, par rapport à tout ça, on a peut-être une dernière question, en tout cas une autre. C'est que vous l'avez expliqué quand vous parliez des différences entre le néolibéralisme et le libéralisme, l'État est un acteur majeur en fait. Donc est-ce que pour lutter contre la néolibéralisation de l'éducation, est-ce que la solution est au sein de l'enseignement public et de l'État ? Je pose une question. Je pense que la réponse est oui.
Bien sûr.
Ce qu'on peut se dire, il y a un problème en fait, puisque l'État est lui-même l'acteur de cette dérive en fait. Donc est-ce que c'est au sein d'une institution étatique que les alternatives moins les positions critiques peuvent se développer ?
Je pense que oui, parce que...
C'est une révolution, ce que tu dis.
Oui, je pense que oui, parce que... il y a quand même toujours... moi, je dénonce, je critique ce qui se passe et tout, mais on a encore les clés de la... C'est nous qui avons quand même les clés du camion. Enfin, je veux dire, les enseignants restent encore pour l'instant dans leur classe. Ils ont aussi des possibilités donc, d'expliquer certains phénomènes, de critiquer, d'expliquer. Il y a encore ce qu'on appelle la liberté pédagogique, quelque chose que je tiens par-dessus tout, qui nous permet éventuellement de déconstruire, de rassurer, d'échanger avec les élèves, etc. Donc, pour l'instant, si vous voulez, on a cette petite possibilité-là qui n'est pas, pour l'instant, remise en cause. Par contre, pour moi, je pense que, on en avait parlé aussi tout à l'heure, je suis très attaché, je suis salarié de l'éducation nationale, et pour moi, effectivement, il n'y a de véritable éducation, de véritable instruction qu'à travers l'éducation nationale, l'éducation publique, c'est-à-dire le service public. C'est aussi un des problèmes des pédagogies alternatives, c'est qu'elles sont très souvent, elles donnent lieu effectivement à des écoles privées, notamment les écoles Montessori. Et pour les parents, c'est parfois aussi une façon, sous prétexte de critique de l'école traditionnelle, du collège, etc., on veut le mettre dans une école un peu plus épanouissante. C'est aussi une façon ça favorise des stratégies d'évitement et d'éviter les cartes scolaires. C'est un des gros problèmes. C'est aussi un des paradoxes. On parlait de la proximité idéologique entre finalement le libéralisme, le, le, les écoles privées, le patronat, etc., c'est justement, le patronat rêve d'une chose aussi, c'est évidemment le développement, enfin développer en tout cas l'enseignement privé. Enfin,
le marché de l'éducation privée.
Bien sûr, ça aussi c'est un point important, et je renvoie justement à cette très bonne... alors attendez, je ne sais plus où j'en suis dans les... Voilà. Sur justement, je crois qu'il y a un livre récent qui s'appelle « La nouvelle guerre scolaire » où on risque de voir réapparaître effectivement de très très fortes tensions entre le privé et le public, notamment parce qu'on sait que le ministre actuel est très favorable finalement au secteur, aux écoles privées, à l'enseignement privé. Donc là aussi, il y a des formes de résistance. J'ai envie de dire que c'est même la première des résistances finalement. Hein, quand on parle de marchandisation de l'école, quand on parle d'attaque néolibérale, je rappelle qu'une des mesures phares que Milton Friedman voulait instaurer justement pour marchandiser l'école, c'est ce qu'il appelle les vouchers, c'est-à-dire les bons d'éducation. Hein, c'est-à-dire en fait ce que souhaiteraient les néolibéraux, c'est qu'on distribue des bons aux familles, des bons, c'est-à-dire en fait des chèques éducation, qui pourraient ensuite choisir eux-mêmes l'école de leurs enfants. Et donc on crée un véritable marché éducatif, mais tout en subventionnant, enfin tout en continuant à subventionner malgré tout l'éducation à travers donc l'attribution de ces chèques éducation, mais en organisant une concurrence très forte entre les écoles publiques et privées, quoi.
C'est pas forcément réjouissant, mais ça peut être une bonne fin de discussion malgré tout.
En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour cette invitation. J'espère que j'ai été assez complet.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup.
C'est pédagogue,
extrêmement instructif.
Ouais. Un grand merci à tous.
Merci.
Merci.